André Bayon, écrivain belge, Délire. Préface. Mesdames, Messieurs, l'auteur de cette future préface avoue son embarras. Entendez qu'il sait parfaitement où il veut en venir, seulement il ignore par quelle voie. En comptant sur les doigts, il y a trois catégories de lecteurs. Ceux qui lisent un livre de bout en commençant par la préface, ceux qui négligent cette préface et ceux qui n'y pensent qu'à la fin. L'auteur vise ces derniers. Il voudrait leur démontrer qu'une introduction n'est pas une table des matières, qu'il est contraire à toute logique d'atteler la charrue devant les bœufs, que... Mais comment le leur dire à temps, puisque par définition ils liront cette démonstration lorsqu'il sera trop tard? Bon, supposons le problème résolu. Ce livre s'appelle Délire. Délire avec un S. Cette lettre en soi n'a rien d'antipathique. Elle prend ici un petit air de pluriel qui ne laisse pas d'inquiéter. Encore, s'il s'agissait de délires amoureux, l'homme et la femme n'en sont pas à quelques délires près, paraît-il, et 10 S si on viendrait mieux qu'un seul. Mais dans les deux récits qui suivent, il est question du vrai délire, celui que le dictionnaire sérieux définisse par l'expression « perdre la boule ». Si dans la première histoire un personnage perdrait réellement la boule, provisoirement, espérons-le, dans la seconde, mon Dieu, les choses se passent d'une façon si simple, tellement dans l'ordre, que l'on se demande mais où est le délire? Il est recommandable à chacun d'être en relation avec un ou deux psychiatres. Ce sont des gens charmants. Autrefois, ils portaient leurs cheveux longs, ramenés en arrière à la charcot, afin de ne rien cacher du front, Sorbonne auguste de la pensée. La crinière ne se porte plus en psychiatrie, pas plus que l'hystérie d'ailleurs. Babinski, grand saint Antoine, est-ce bien Babinski? Babinski a changé tout cela. L'hystérie est une blague et le psychiatre moderne ressemble à tout le monde. Même on en voit qui inclinent leur chapeau légèrement sur le côté dans un charmant laisser-aller au goût du jour. Seulement il y a leur regard. Par exemple, leur premier coup d'œil, quand ils enveloppent et jugent un malade qui ne se doute pas que la consultation est déjà commencée. Le spectacle est très beau, pourvu que l'on n'y soit pas directement intéressé. Il devient encore plus beau quand le malade, sans en avoir l'air, sait parfaitement que son médecin l'observe. Et le drame touche au pathétique quand le médecin, et toujours sans en avoir l'air, poursuit son observation en sachant que le malade sait. Et de l'un à l'autre, c'est une guerre éternelle de petites ruses, tantôt cordiales, tantôt féroces, toujours chargées d'intelligence. Car si le psychiatre a de la finesse, il n'est pas de malade plus malin, plus éveillé et pour tout dire plus subtilement sur leur garde que ceux qui se livrent ou ne se livrent pas à sa direction. Pour en venir à l'ess de Délires, le connaisseur d'âme au regard lucide vous dira en termes plus étudiés, bien entendu, qu'entre ce qui se voit et ne se voit pas, entre l'écoulement d'eau goutte à goutte et la cascade à gros bouillons, entre le délire forcené et le raisonnement qui suit en paix son bonhomme de chemin sur une fausse piste, c'est comme dans certaines fables où le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Voilà bien des détours pour deux pauvres petites histoires qui ne cachent pas tant d'intentions. L'auteur eût été mieux avisé en alignant simplement quelques-uns de ses dictons qui arrangent tout et ne prouvent rien. Par exemple, « Telle mère, tel mari, plus on est de fou, plus on rit. Hâte-toi lentement, le baptême est un sacrement. Tout fait farine au moulin, ne fais pas aujourd'hui ce que tu peux remettre à demain. » Auguste Bayon. Des mots, drame cérébral. Pour autant qu'on puisse le savoir, cela commença comme ceci. Il tournoyait dans la cuisine, il comprit ardent levier. Il fit « Qu'est-ce que tu dis ? » Ardent l'évier, qu'est-ce que tu dis ? Elle répondit : Il ne faut pas jeter le marc dans l'évier. Certes, il ne faut pas jeter le marc dans l'évier, et le marc bouche l'évier. Ce sont des conversations de ménage. Il rit : Bah, tu as raison, il ne faut pas jeter de marc dans l'évier. Il ne faut pas jeter de. Tiens, pourquoi, coup sur coup, répétait-il : Il ne faut pas jeter de marc dans l'évier. Il avait un peu mal dans la tête, là, par derrière, sous l'os. C'était un long, très maigre, avec une tête de bon chien triste. Il s'amusait parfois devant une glace. « Tiens, Fox, un sucre ? » Il souriait, et dans la glace, avec sa tête de bon chien triste, Fox souriait aussi. D'autres ainsi se découvrent un bouton ou s'arrachent un poil dans le nez. Petite manie quand on est seul avec soi. Pour le reste, son but était des livres. Avec le même but, il y en a qui s'appellent hommes de lettres. On dit de même femmes de ménage. Il était plus modeste, il avouait « Je vis mes histoires ». Le lendemain, il écrivait « Une petite chambre, une table, une chaise, et parce qu'il faisait froid, un poêle dans la fumée. » Toujours son mal dans la tête. Sa plume traça « Il ne faut pas jeter de marque dans l'évier. » Zut, une bourde. Oh, écrire des bourdes, c'est qu'on est fatigué même davantage. Oui, peut-être. Les amis conseillaient « Mon cher, repose-toi, tu t'es surmené. » Surmené comme surhomme, quel grand mot. Mais non, il ne s'était pas surmené. Comment l'eût-il été ? Depuis des mois, il n'avait plus touché sa plume. Il avait soigné sa germaine. Voyons, se surmène-t-on à soigner sa germaine ? Alors, sa phrase. Il médita et il commença. Il ne faut pas... Ah non, alors, allait-il gâcher son temps à des enfantillages ? Des mois sans écrire. Toujours laborieuse, ses mises en train. Il pensait trop à Germaine. C'est vrai qu'elle avait été malade, et fort. Elle parlait tout le temps. Elle annonçait « Je vais me taire » et recommençait à parler. Un esprit parlait en elle. Elle était son épouse en Dieu, folle, un si beau cerveau, et lui, le cocu d'un esprit. Bah, c'était fini. Plus folle, bien guérie, bien d'aplomb. L'usine, comme il disait, en pleine activité. Elle a son piano et ses notes, lui a sa table et ses phrases. Elle travaillait. Il l'entendait, boum, boum, boum. Quelle poigne, une poigne pour Beethoven. Toujours grand, ce Beethoven. Alors, vieux, travaille comme elle. Il aligna des mots. Cela la fit une phrase. Il l'essaya. À la bonne heure, elle marchait bien. Il aimait les phrases venues d'un coup et marchant bien. Une phrase qui d'un pas égal pose les pieds où il faut pour arriver où elle doit. Écoutez comme elle marche. Elle marche avec rythme. Il avait écrit cela un jour. La nouvelle phrase se campait. Avec son marc dans l'évier, ce qu'il était bête tantôt. Allez, en avant, la suivante. Ah, quand même, sa Germaine. Il paraît, c'est toujours ainsi. Pendant qu'elle était malade, comme elle le détestait. Un assassin, elle le croyait un assassin. Il avait tué une femme. Assassin maudit, va crever à la rue. Comme elle lançait ces mots. Il frappait dur, la nuit surtout. Et quand par pénitence elle ne voulait pas avaler sa salive, dès demain elle retenait sa langue. « J'avalerai pas ma salive, j'avalerai pas ma salive, j'avalerai pas ma salive. » La langue prise se la gargouillait. Quel cauchemar, ta ta ta. Allez, oubliez tout cela. Les derniers temps, elle l'appelait mon petit fieu du bon Dieu. C'était pénible, il aimait bien ce nom. Allons, petit vieux du bon Dieu, travaille. Et les amis, ah, s'ils les avaient écoutés, ils parlaient sur le seuil sans entrer. Mon cher, comment va-t-elle? Et toi, sois prudent, on ne vit pas impunément dans une telle atmosphère. À les entendre, Saint-Germaine, on l'eût enfermé. Ah non, n'est-ce pas? Il se devait à Saint-Germaine. Son cerveau à lui, il l'eût sacrifié pour sauver celui de Saint-Germaine. D'ailleurs, il avait un cerveau solide, ayant fait déjà d'autres pirouettes, et retombant toujours sur ses pattes. La preuve, après des mois, il le tenait entre ses doigts devant sa table à fabriquer des phrases. Il écrivit « Marie était... » Oh, mon Dieu, écrire « Marie » quand on pense Germaine, on n'y est pas. Marie était celle du roman en cours, une brave femme, une grosse maman de femme, dans le genre d'une Marie qu'il avait aimée autrefois. Eh oui, on se quitte, mais l'affection reste. Il voyait encore cette Marie. Mais c'est loin autrefois. Plus volontiers, il eût écrit « Germaine ». Bof, on a commencé, il faut bien qu'on achève, voilà. Marie était... Du diable, mais qu'est-ce qu'elle était, Marie? Ce mot qu'il cherchait, ce sacré mot, s'obstinait à s'enfuir. Sans doute à cause des boum 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 de Germaine. Quel poids, toujours lent, ce Beethoven. Tout de même, elle avait peut-être tort. C'est beau le piano, mais quand on a eu le cerveau malade, il est bon de le ménager. S'il allait la distraire un instant, il alla. Eh bien, tu es contente? Il marchait bien, ton Beethoven? Comment? Elle ne jouait pas du Beethoven? Ah, j'ai cru cependant. Elle dit, tu t'es trompée? Elle ne jouait même rien du tout. Le piano clos, elle feuilletait un livre. Tu vois, je lisais. Et toi, cela marche? Tu es si rouge. Rouge? Quoi rouge? Qu'est-ce que cela fait que l'on soit rouge? Quand on travaille, on est toujours un peu rouge. Il dit. Non, ne t'inquiète pas, repose-toi. Moi, je retourne à mon roman. Comme c'est bizarre. On entend des notes. Elles ne vivent que dans la tête, alors d'où viennent-elles? Et puis rouge? Il se planta devant sa glace. Bonjour, Fox, nous sommes rouges, paraît-il. Prends ton sucre et maintenant au travail. Tiens, que s'était-il passé? Sa phrase, sa bonne phrase de tantôt, on la lui avait biffée. Mais qui donc lui avait biffé sa phrase? Allons, il ne fallait pas s'énerver. Personne ne vous biffe une phrase. Il l'avait biffé lui-même, sans y penser, une distraction. Il n'y avait qu'à la réécrire, voilà. Il prit sa plume, il réfléchit, et il écrivit « Il ne faut pas jeter de marre dans l'évier ». Il dormit mal. Ah, ces nuits! Il ne l'aurait pas dit à Germaine, mais depuis quelques nuits, il dormait de plus en plus mal. Il ne voulait plus dormir. L'horreur déjà de se glisser dans ce lit où des jours, elle avait crié « Assassin, tueur de femmes, va crever dans la rue !» Tous ces cris que l'on a entendus, que l'on recommence à entendre dès qu'on s'oublie à fermer l'œil. Il regarda Germaine. Elle dormait bien, elle, plus agitée du tout, calme, au bout des doigts ses petites secousses comme toujours, parce qu'une main de pianiste, même en dormant, frappe encore sur les touches. Une belle artiste, un beau cerveau. S'il l'embrassait, il se pencha. Et qu'allait-il faire? caresser ce front en avait-il le droit? Ce sont des choses qu'on ne s'avoue pas. Si elle avait été malade sous ce front, à qui la faute? À qui, parbleu? N'est-ce pas, on est écrivain, on combine des histoires, on imagine des personnages, certains on les aime si fort qu'on les devient. Par exemple, ce Valère dont les pouces se serraient en amour autour du cou d'une vieille femme. Si, si, il avait senti si fort que ses mots en écrivant s'étaient enfoncés comme des pouces dans ce cou de vieille femme. Il en avait même pris de la joie, une joie venue du diable, de réaliser sur le papier le mal qu'il n'eût osé dans la vie. Avec cela, on est lâche. Ce beau cerveau de Germaine que l'on aime, on le connaît depuis l'enfance, on le sait un peu naïf, on s'amuse à le chipoter, voir ce qui arrive. Un jour, n'avait-il pas essayé? Tu sais, quand Valère étranglait cette femme, c'est arrivé, c'est vrai. Un autre jour, ben toi, je l'avoue, ce Valère, c'est moi. Ou plutôt non, ce n'était pas ainsi. Ce livre que l'on écrit, ce livre dont on parle, que l'on vit, on mêle le vrai et le faux. Elle, la première, avait dit, ce Valère, c'est toi. Et lui encore, tout chaud, oui. Voir ce qui arrive. Ce qui arrive, ah bien oui. Pendant des mois, une femme se replie dans la terreur, le dégoût, parce que... Et l'homme n'y pense plus. Puis folle. Assassin, tueur de femmes, va crever dans la rue. Encore ces mots, s'il les avait simplement entendus, mais les voir. Plein la chambre, sur les chaises, accrochées aux barreaux du lit, sur l'armoire. Comme elle, quand elle les prononçait, ils avaient les jours de Germaine, le nez de Germaine, ce masque horriblement boursouflé qui était le visage de Germaine, et ne ressemblait plus en rien au visage de Germaine. Et il roulait les yeux, tordait la bouche, se tenait dans deux mains la langue, parce qu'il ne voulait pas avaler leur salive. On a beau dire que de tels mots n'existent pas, quand même il les voyait. Et puis, assassin, tueur de femmes, va crever dans la rue. Qui lui prouverait, après tout, qu'il n'avait pas tué une femme? Hein, sa joie quand, mot par mot, il écrasait sous les pouces le cou de cette vieille femme. Et puis, il avait promis, mon cerveau pour sauver le sien, je donne mon cerveau. C'était justice. Maintenant, le cerveau était sauvé. Alors, ces mots qu'il entendait, ces mots qu'il voyait, s'il venait réclamer ce qu'il avait promis. Il dormit mal, il se tenait sur ses gardes. Quelque chose allait se produire, il sentait plus violent déjà dans sa tête son mal. Là, par derrière, sous l'os. Le lendemain, il ne pensait à rien. Il regardait Germaine. Il entendit « Il faut pas jeter le marc dans l'évier. » Zut, on ne jette pas du marc dans l'évier. Mais qu'est-ce qui jetait du marc dans l'évier? Mais qu'est-ce que cela lui faisait que l'on jeta du marc dans l'évier? Oh, n'allait pas recommencer cette blague. Germaine, devant son piano, ne jetait pas du marc dans l'évier. Elle étudiait son Beethoven. Pam, 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 toujours grand, ce Beethoven. Il dit, ben, je vais faire comme toi, je vais travailler. Il s'enferma dans sa chambre. Il alla vers son miroir. C'est sucre, Fox. Nous avons les yeux tristes, un peu hagards, mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, bas, au travail, Fox. Il reprit sa phrase de la veille. Marie était... Mais qu'est-ce qu'elle était, Marie? Tiens, Marie. Le mot sur le papier bougea, se souleva, prit un corps, puis deux ailes, s'envola, et droit par l'œil lui entra dans le cerveau. Cela se mit aussitôt à ronger. Mais non, que les mots la nuit, fils des grimaces, il le savait. Mais en plein jour, les mots ne prennent pas d'ailes, les mots sont des signes, les mots ne deviennent pas des mouches qui entrent par un œil pour vous ronger le cerveau. La preuve, il courait là, sur sa page. Du bout du doigt, il l'aplatit. Mort, cela fit une tache. Certes, non, il n'avait pas peur. Voir ce qui arrive, il essaya d'un autre mot. Était. Vraiment, oui, le mot vivait. Des pattes, une carapace, un bout de trompe, on aurait dit de ces bêtes qui percent le bois. Elle grimpa le long du porte-plume, puis droit dans l'œil, lui bondit dans le cerveau. Cela se mit aussitôt à ronger. Ah, une bête, elle se traînait d'ailleurs sur le papier. Tiens, bête! Sous l'ongle, il l'écrasa, cela fit une deuxième tâche. Voir ce qui arrive? Eh bien, au hasard, il traça. Il ne faut pas jeter le marc dans l'évier. Cela grouillait. Ce n'étaient pas des vers, puisqu'ils agitaient des pinces et aussi des pattes comme des homards. Mais ils avaient un corps de ver. Il eut tout juste le temps, il abattit le poing. Tenez, ver! Quelle bouillie! Sa paille en fut souillée. Le singulier roman qu'il écrivait là. Il pensa, oh, je vais montrer mon ouvrage à Germaine. Pam, pam, pam! Beethoven resta une main en l'air. Elle regarda, elle dit, eh bien, c'est à cela que tu travailles, des pâtés d'encre? Où voyait-elle des pâtés d'encre? Il expliqua, mais c'est du jus de mots. Elle fit, évidemment, l'encre, c'est du jus de mots. Pauvre Germaine, elle était guérie, mais quand même, il restait quelque chose. Il précisa, comprends-tu, c'est pas de l'encre, ces mots vivaient, je les ai tués, tu vois, là et là. Il montra les places. Puis il se fâcha parce qu'elle soutenait, mais tu dis des bêtises. Après, oui, il dut en convenir, en effet, c'est de l'encre. Il en avait plein les doigts. Elle dit alors, à la bonne heure, d'ailleurs, tu sais bien, on ne tue pas les mots. On ne tue pas les mots. Ben évidemment, on ne tue pas les mots. Mais alors, si on ne tue pas les mots, ils vivent, et s'ils vivent, ils étaient dans son cerveau, il les sentit. Sa pauvre tête, mon Dieu, comme les mots y rongeaient. Il comprit et tout aussitôt comprit autre chose. Il avait dit, je donne mon cerveau. Les mots lui prenaient son cerveau. Il prononça, ce qui arrive est juste. Et ces mots, comme les autres, entrèrent et lui rongèrent le cerveau. Il retourna dans sa chambre, et miroir fut un mot avec un chien qui sourit et vous mord le cerveau. Il ne fut pas surpris. Il fit quelques pas, et comme s'il avait marché dans une fourmilière, des mots coururent sur ses pieds, et des mots coururent sur ses jambes, des mots coururent sur ses mains, des mots montèrent vers sa tête, des mots qui cherchaient et trouvaient son cerveau. Ils étaient comme ils sont quand les mots vous cherchent le cerveau, avec des dards d'abeilles, avec des griffes de lion, avec des ailes comme des oiseaux, avec d'ignobles barbes d'hommes, avec le masque boursouflé qui ne ressemblait plus au visage de Germaine. Là un mot qu'elle avait lancé, là un mot qu'il avait écrit, là un mot qu'il avait pensé, là un mot qu'il avait dit. Mon Dieu, pourquoi dans sa vie avait-il animé tant de mots? Mais il n'était pas fou. Germaine avait été folle. Tandis qu'elle était folle, elle annonçait « Je vais me taire » et ne cessait de parler. Lui, il pouvait se taire. Et il dit Il ne faut pas jeter de marc dans l'évier. Mais ce qui arrive est juste. Et d'abord, plus jamais je ne m'assoirai sur une chaise. Ma place n'est plus sur une chaise, ma place est par terre, humblement, près du poêle. Il s'assit près du poêle. Il était libre de se taire. Il continua de parler. Et poêle est un mot qui porte dans son ventre des intestins de flamme. Et flamme est un mot qui vous brûle le cerveau avec sa langue de flamme. Ce qui arrivait était juste. Ces mots, puisqu'il voulait son cerveau, il ne repoussa pas ces mots. Il était toujours libre de se taire. Il dit, « Je laisse entrer ces mots. » Il y a les mots, et mots est un mot avec trois pinces, à me pincer le cerveau. Il y a les mots, on leur dit, « Viens ici, gentil petit mot. » Avec un peu d'encre, sur le papier, on le colle, cela fait un mot. Avec un peu d'encre, sur le papier, on colle d'autres mots, cela fait d'autres mots. Encore des mots, et de mot en mot, cela fait des phrases en mots. Encore des mots, de mots en mots, cela fait des livres en mots. Et des livres en mots avec des valeurs en mots et leurs pouces en mots qui vous cherchent et vous étranglent le cerveau. Mais les mots dans des livres sont des mots qui vivent. Alors, comme des mots qui vivent, ils sortent de votre livre, car on ne tue pas les mots. Pourquoi ces mots qui vivent sortent-ils de mes livres et pourquoi me rongent-ils le cerveau? Parce qu'on ne tue pas les mots. Parce que j'ai dit, voilà, je donne mon cerveau. Et ce qui arrive est juste. Il pensa à Germaine, il expliqua. Cher Germaine, tu m'as dit, ce mot vous saute aux yeux. Alors, ce mot vous saute dans les yeux. Cher Germaine, tu m'as dit, ce style est vivant. Alors, ce style est vivant, et chacun des mots de ce style est vivant. Les mots ne sont morts que dans les dictionnaires. Mes livres ne sont pas des dictionnaires. Et ce qui arrive est juste parce que j'ai dit, « Voilà, je donne mon cerveau. » Ainsi, les mots me rongent le cerveau, ils copulent dans mon cerveau, ils piquent leurs œufs dans mon cerveau, ils éclosent dans mon cerveau. Il y en a qui meurent dans mon cerveau. Bah, ceux qui meurent, comme ils puent dans mon cerveau. Mais ce qui arrive est juste. Il eut un souvenir et pour mieux y penser, s'allongea par terre, là où c'était désormais sa place, pour que les mots puissent plus vite ronger son cerveau. Un jour, avec un ami, il avait été à la chasse. Il n'eût pas tiré un lièvre, même en étant Valère, il n'eût pas tiré sur une femme. L'ami avait tiré sur le lièvre, il l'avait blessé, il ne l'avait pas trouvé. Plus tard, seulement lui, il l'avait trouvé. Il ne restait que des os. Les fourmis l'avaient rongé. Les fourmis sont des mots à vous ronger le cerveau. Ainsi, comme le lièvre, il rongeait son cerveau. Il n'en resterait que des os. Mais cerveau est un mot. Il n'avait pas de cerveau, il avait un mot comme cerveau. Il alla trouver Germaine. Il dit, « Je n'ai pas de cerveau. J'ai un mot et d'autres mots, mangeons ce cerveau. » Elle ne pouvait pas comprendre. « Ne blague pas, tu dis des bêtises. » Il ne disait pas de bêtises. Et bêtise fut un mot qui rongea son cerveau. Pourquoi discuter? Elle était guérie, mais restait toujours un peu folle. Et ce qui arrivait était juste. Il retourna dans sa chambre. Il y courait plus de mots. Il reconnut Valère et ses deux pouces en mots pour étrangler son cerveau. Il se remit par terre et c'était maintenant sa place. Il n'était pas fou, il était libre de se taire. Il annonça, « Bah, je vais me taire. » Il dit, point de suspension, Ils étaient au lit, Germaine dormait. Par une fente sur le plancher, goutte à goutte, la pluie gouttait. C'était la pluie. Les autres nuits, oui, c'était la pluie, mais aujourd'hui. Une goutte toquait, puis à la file, trois. Une goutte toquait, puis à la file, trois. Une goutte. La première était pour l'œil, la deuxième était pour l'œil, puis à la file, trois pour la tête, dans le trou qu'il avait. Déjà très grand dans la tête, le trou qu'il avait. Les mots rongeaient, c'était la nuit. Chut, Germaine dormait. Les mots rongeaient, c'était la nuit. Chut, Dormant dormait. Déjà très grand dans sa tête, le trou qu'il avait. Un mot venait, une goutte toquait. Un mot venait, une goutte toquait. Puis à la file, trois, Germaine dormait. Plus grand dans la tête, le trou qu'il avait. Germaine, chut, Germaine dormait. Une goutte toquait, un mot venait, une goutte toquait, un œil pleurait. Puis à la file, trois, dans le trou de la tête où les mots rongeaient et les mots tombaient. Germaine, Germaine, chut, Germaine dormait. Germaine, Germaine, chut, Germaine dormait. La peur venait, Germaine dormait. Par une fente sur le plancher, goutte à goutte, la peur toquait. Les autres nuits, oui, c'était la pluie, mais aujourd'hui, une goutte toquait, un mot rongeait. Une goutte toquait, un cœur tremblait. Puis à la file, trois, oh, dans la tête, le grand trou qui s'ouvrait. Germaine, Germaine, Germaine. Chut, Germaine dormait. Germaine, chut, Germaine dormait. Et ce fut tout pour les mots. Vint un jeudi. Quand Germaine était malade, elle se raidissait. « Oh, je vais tout à fait bien, je vous l'assure. » Mais lui, sans se raidir, il allait tout à fait bien, je vous l'assure. Sa tête, soit, lui faisait mal, là, par derrière, sous l'os, mais il avait ce droit. Pour le reste, non, tout à fait bien, je vous l'assure. Le jeudi, il passait une heure chez Marie, celle de ses livres. Oui, pas une maîtresse, pas sa femme comme Germaine, une espèce de maman. Germaine le voulait bien. Oh, tout à fait bien, je vous l'assure. Quand il entra, Marie cousait des chemises. Qu'eût-elle fait, Marie, si l'on coudre des chemises? Plus exactement, dans la chemise, elle surfilait une boutonnière. Elle demanda, « Comment vas-tu? Mieux ?»« Mieux, pourquoi mieux ?» Il répondit, « Mais oui, Marie, je vais tout à fait bien, je te l'assure. » Elle pensa à Germaine, elle demanda, « Eh, chez toi, cela va bien ?»« Mais tout à fait bien, je te l'assure. » Elle sourit, « Alors, je suis contente, moi, tu vois. »« Oui, Marie, je vois tes chemises. » C'était parfait, elle aussi, elle allait tout à fait bien, je vous l'assure. Chez Marie, il aimait de venir, puis il aimait de s'en aller. Il regarda l'heure à une petite montre qui pendait au mur. Il avait oublié la sienne. 9 heures. Il attendit un peu, il s'informa. Oh, c'est de la flanelle? Ah non, du coton. Oh, j'aurais juré de la flanelle. Et de nouveau, il regarda l'heure. Toujours 9 heures. Ah, le temps ne passait pas vite. Il regarda autour de lui. Marie cousait dans sa cuisine. La table, le poêle, une cafetière, naïvement trop grande pour une Marie toute seule. L'évier. Oh, il sentit un petit choc. Il dit, Tu sais, il ne faut pas jeter du marc dans l'évier. Bien entendu, fit Marie. Je bouche à l'évier, pourquoi dis-tu cela? Oh, pour rien, Marie. Dis cela comme j'aurais dit autre chose. Cela crée des malentendus, quelquefois, ardent l'évier. Tu comprends? Ben non, dit Marie, je ne comprends pas. Oh, ne t'inquiète pas, je dis cela pour... Et pour la troisième fois, il regarda l'heure. Tiens, toujours 9 heures. Il observa. Mais elle marche pas, ta montre. Oh non, dit Marie, elle est cassée. Bon, cassée. À cela, rien à répondre. Ce ne fut qu'un peu plus tard. Pourquoi Marie accrochait-elle au mur une montre qui ne pouvait indiquer l'heure puisqu'elle était cassée? Et puis on ne casse pas comme cela une montre. Et il dit, « Peut-être as-tu pas donné à manger à ta montre ?»« Mais donne-t-on à manger à une montre ?»« Non, il savait bien comment on fait marcher une montre. » Bon, il avait dit cela pour rire, pour gagner du temps, et aussi parce qu'il avait faim. Marie aurait dû comprendre. Elle ne comprit pas, elle fit celle qui ne comprend pas. Elle achevait une boutonnière, elle l'approcha de sa bouche et en coupa le fil avec ses dents. Il vit bien, elle mordit ce fil avec rage. Elle dit, « Ne donne pas à manger à une montre !» Et aussitôt, montre fut un mot avec des roues qui tournèrent pour ronger son cerveau. Ce qui arrivait était juste, mais il ne voulait pas que cela se produisît ainsi. Il essaya de se défendre. « Non, ne te fâche pas, je ne te reproche rien, tu es libre. Simplement, je constate, tu as oublié de donner à manger à ta montre. » Cette explication aurait dû suffire, on donne ou on ne donne pas à manger à une montre, puisqu'il donnait, lui, son cerveau à ronger à la montre. À Marie, il ne pouvait le dire. Mais elle n'avait qu'à répondre un petit mot, par exemple. « Tu as raison, je vais donner à manger à ma montre. » Il n'eût plus été question de rien. Et non, elle fit ce que faisaient les autres depuis quelques jours. Elle dit, « Mais ne blague pas, mais tu dis des bêtises. » Alors, il fut évident que l'on donne à manger à une montre. Et puis il ne voulait pas que Marie dise qu'il disait des bêtises. « Je jure, fit-il, je jure que tu te trompes, que vous vous trompez tous quand vous dites que je dis des bêtises. Toi, Marie, tu sais que je ne dis pas de bêtises, et que quand je dis « tu as oublié de donner à manger à ta montre », moins que jamais je ne dis des bêtises. » Il s'arrêta. Elle eut le geste de quelqu'un qui laisse là sa couture parce que son lait se sauve. Le dé tomba, l'aiguille tomba et la chemise sur le tout. Mais pourquoi ces chutes l'une après l'autre? Et elle le regardait avec ses yeux comme autrefois quand il se plaignait « J'ai mal à la tête ». Mais oui, il l'avait, mais il ne se plaignait pas. Il fallait à tout prix qu'elle comprît que l'on donne à manger à une montre. « Et voyons, pourquoi dis-tu? Un canari, tu lui donnerais des graines. Ton poil, tu le bourres, alors ta montre. Peut-être t'en souviens-tu pas? Tu le fais sans y songer. Pourtant, réfléchis, tous les jours tu donnes à manger à ta montre. Tu sais bien que tous les jours tu donnes à manger à ta montre. Tu sais bien que tous les jours tu donnes à manger à ta petite montre, que tu donnes tous les jours à manger à ta pauvre petite montre. » Il l'embrassa. Et vous voyez, Marie était bonne. Quand on l'embrassait, elle finissait toujours par comprendre. Elle se mit à pleurer sur les malheurs de cette pauvre petite montre. Elle dit, « Eh bien, sois, je vais donner à manger à ma montre. » À la bonne heure, il fut content. Mais que donnerait-elle à manger à sa montre? Il fit, « Allez, ne pleure plus, dépêche-toi, je suis curieux. » Et voici, elle prit des œufs, elle en prit trois, elle les cassa dans un poêlon, elle les fit cuire, puis elle le posa devant lui. « Mange, mon petit !» Et elle ne pleurait plus. Ainsi, l'heure fut dépassée. Il sortit. Il allait tout à fait bien, je vous l'assure. Il allait comme on va quand on a mangé trois œufs. Il avait mangé trois œufs. Alors pourquoi ? Pourquoi, quand il entra, Germaine eut-elle ce mauvais regard ? Il souriait, il se disposait à lui dire « bonjour », ensuite il l'eut embrassé. Mais elle le tint à distance. « Eh bien, cela va, quelle nouvelle ?» Une telle question. C'était clair, elle connaissait déjà l'histoire de la montre. Elle soupçonnait Dieu sait quoi à cause de l'histoire de la montre. Il expliqua. « Elle ne marchait pas, sa montre. Alors nous sommes un peu chamaillés, j'ai dit. Cela m'étonne pas, t'as oublié de donner à manger à ta montre. » Ces mots devraient suffire. Il n'avait rien fait de mal. Germaine n'avait qu'à répondre, c'est évident. Il y invita, n'est-ce pas, Germaine ? Et non, elle n'avait pas sous la dent du fil à boutonnière où passait sa colère. Elle trancha, mais on ne donne pas à manger à une montre. Pourquoi prolonger cette histoire de montre ? Il précisa. Mais si, voyons, la preuve, elle a cuit trois œufs, je les ai mangés. Elle eut le mauvais sourire des femmes qui ont tort. Elle fit ce que font toutes les femmes qui ont tort. Elle parla d'autre chose. Elle dit, « Trois œufs, après ton petit déjeuner, tu es un fameux gourmand. » Bon, on ne le dit pas gourmand, elle prononça un autre mot, mais par politesse. Il interpréta gourmand. Alors pourquoi, mais pourquoi, disait-elle, tu dis des bêtises ? Pourquoi niait-elle ? On ne donne pas à manger à une montre ? Pourquoi prononcer un mot que par politesse il interpréta gourmand ? Sa pauvre tête. Mais il allait si bien, je vous l'assure, sa pauvre tête. Les mots se remirent à ronger. Et ce qui arrivait était juste. L'après-midi, il sortit. Il avait annoncé à Germaine, « Je vais voir mon ami. » L'ami. C'était l'ami avec un grand A, le seul ami, le cher ami. Comme il était content de revoir le seul ami. Il faisait beau. Il marcha vite. Chut, on ne pense pas aux mots quand on va chez l'ami. On ne pense pas à la montre quand on va chez l'ami. Pas un mot. Oh, il ne dirait pas un mot de la montre à l'ami. Quand il fut chez l'ami, il dit, « Bon, je me suis querellé avec Marie. » L'ami s'étonna. « Ah, pourquoi ?» Il expliqua, « À propos d'une montre, elle n'avait pas donné à manger à sa montre. » Ainsi, sans le vouloir, il en revenait à parler de la montre. L'ami ne parut pas surpris. Sans doute connaissait-il l'histoire. Il s'informa, « Et vous, que donnez-vous à manger à votre montre ?» Lui, ce qu'il... Oh, mais depuis des années, il ne s'occupait plus de sa montre. Montrait un mot avec des roues qui tournent pour ronger le cerveau. Il ne pouvait le dire. Il buvait du café. Il supposa au hasard. Bon, donne du café à manger à une montre. Puis il rit, car c'était drôle de donner du café à manger à une montre. L'ami rit aussi, farceur. Pourquoi farceur ? Il ne précisa pas. Ils parlèrent d'autre chose. L'ami disait des phrases pour voiler le problème de la montre, car ils pensaient tous deux au problème de la montre. Il sortit. Il marchait à travers champs. Il allait tout à fait bien, je vous l'assure. Il ne pensait plus à la montre. Il ne pensait plus aux mots. Les mots sont peut-être des grenouilles qui sautent sans chemise comme des femmes nues dans un pré. Ha ha, il traversait un pré. Il vit ses grenouilles. Il en prit une. Elle avait sous la gorge quelque chose qui battait comme le tic-tac d'une montre. Ah oui, la montre. Il réfléchit. Mon ami a dit, et vous, que donnez-vous à manger à votre montre? Il n'a pas dit, je ne crois pas qu'on donne à manger à une montre. Donc il croit ou ne croit pas, mais pourquoi? Mais pourquoi, comme Germaine, pourquoi, comme Marie, ne pas dire ce qu'on donne à manger à une montre? Il rentra. Germaine, au piano, travaillait son Beethoven. Chère Germaine, pam, 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 toujours grand, ce Beethoven. Il dit, bon, je ne veux pas t'inquiéter, à toi je ne parlerai jamais de la montre. Et ce qui arrivait était juste. Il se réserva pour le samedi. Le samedi, il rencontrait d'autres amis chez l'ami. Quand Germaine était malade, ils avaient dit « Méfie-toi, on ne vit pas impunément dans une telle atmosphère, toi surtout. » Il savait tout, il connaissait l'histoire de Valère, il connaissait probablement le problème de la montre. Il connaissait certainement le problème de la montre. Il se réunissait uniquement pour résoudre le problème de la montre. Alors qu'en dirait-il? D'abord, ils ne parlèrent pas de la montre. Ils s'étaient réunis avant lui, ils dirent « Ah, vous allez bien, reposez? Avez-vous vu un médecin ?» Tout cela pour gagner du temps et ne parler que plus tard de la montre. D'ailleurs, attention, voir un médecin. Pour Germaine aussi, ils avaient parlé de voir un médecin. Et cet homme à peine entré, dangereuse pour elle, dangereuse pour les autres, il serait prudent de l'enfant. Oh non, non, il n'avait pas voulu, il répondit. Non, je vais tout à fait bien, je vous assure, mais pourquoi parlez-vous d'un médecin? Vous savez que je ne suis pas. Il attendit et, comme on crie, feu, fou! Ils rirent tous ensemble. Mais oui, nous le savons, vous n'êtes pas... Puis, comme on crie au feu, fou. Gare, à Germaine aussi, on avait dit, mais oui, nous le savons. Donc, il le traitait en fou. Il pensa que pour Germaine, il avait livré son cerveau. Et il fit, vous dites que je ne suis pas fou, pour la simple raison que vous me croyez fou. Pourtant, je ne suis pas fou. Mais si cela me plaisait, pour une autre simple raison, je vous dirais que je suis fou, que certainement plus tard, je sais pourquoi, je deviendrai tout à fait fou. Et eux, tous ensemble, mais c'est évident, mon cher, vous êtes fou. Qui de nous n'est pas un peu, et comme on crie feu, fou? Fou et puis pas fou, c'était clair, il plaisantait. Il voulait éviter le problème de la montre. Il ne répondit plus. Il se mit dans un coin. Il écouta. Puisqu'il parlait inévitablement, ils en arriveraient au problème de la montre. C'étaient des écrivains, c'est entendu. Ils lurent de leurs œuvres, c'est entendu. Il y avait des musiciens, c'est entendu. Ils firent de la musique, c'est entendu. Ils savaient tous qu'ils étaient réunis pour traiter le problème de la montre et pas un ne se risqua à parler du problème de la montre. On lui dit, « Et vous, mon cher, vous nous lirez quelque chose ?» Il était écrivain, c'est entendu. Il lut quelque chose, c'est entendu. Ils étaient là, tous, à savoir ce que l'on donne à manger à une montre. Et quand il eut fini, pas un ne se résolut à parler de ce que l'on donne à manger à la montre. Quelqu'un lui dit, « J'aime ce conte. » Il ne s'agissait pas de ce conte, il s'agissait de la montre, et sans doute le pensait-il à haute voix, car tous éclatèrent « Sacré farceur !» Alors l'ami sortit, il revint avec quelque chose, il dit « Ah, voilà du café, voilà une montre !»« Vous prétendez que l'on donne du café à une montre ? Eh bien, donnez donc ce grain de café à la montre !» Enfin, on parlait de la montre. Mais il n'était pas un farceur, il n'était pas fou. On ne donne pas du café à manger à une montre, surtout on ne donne pas en public du café à manger à une montre. Il fit « Mais ce que vous demandez n'est pas sérieux ?» Ils eurent l'air de comprendre. « Alors parlons d'autre chose !» Mais ils pensaient à la montre. Il y avait là un monsieur. Il se mit à parler de Taine. Était-il nécessaire que ce monsieur parlât de Taine ? Vous, monsieur, si je vous interrogeais, vous diriez, n'est-ce pas, qu'il faut... Taine, continua le monsieur qui parlait de Taine. Il y avait une dame, elle jouait du piano. Était-il nécessaire que cette dame jouât du piano ? Vous, madame, si je vous interrogeais, vous me diriez, n'est-ce pas, qu'il faut... « Pam, 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 pam !» poursuivit la dame qui jouait du piano. Il vit alors que la dame était Germaine, qu'elle écoutait le front dans la main, le monsieur de Taine secouait la tête, et que les autres en cercle secouaient également la tête. Ils avaient l'air de battre la mesure, mais ils ne la battaient pas. Ils se faisaient des signes. « Attention, plus un mot, nous ne dirons plus un mot de la montre. » Mais pourquoi conspirait-il ainsi ? Pourquoi s'obstiner à ne pas parler d'une chose si simple, ce que l'on donne à manger à une montre ? Il lui suffit de mots, d'un quelques mots, de beaucoup de mots, pour vider enfin la question. On était venu pour cela. Oh, c'était clair. Avant son arrivée, il s'était concerté avec son valet. Il a rendu sa femme malade, nous le châtirons. Oh, il suivait un plan réglé par ce monsieur qui s'obstinait à parler de Taine. Il fallait en finir, il sauta debout. Vous parlez de Taine, monsieur, mais vous savez bien que je ne suis pas. Mais comme on crie feu, fou ! Et voilà qu'en sautant debout, fou fut un mot avec des pieds comme les siens, des mains qui prolongeaient les siennes, qui battaient l'air, frappaient sur la table, finirent par renverser une tasse de café, et sans doute cet ignoble café qu'il prétendait lui faire donner à manger à la montre. L'affaire était bête, mais elle devenait grave. Il se tourna vers Germaine. « Avec ce genre, rien à faire, sortons. » Il sortit. Il marchait sur une route, il faisait nuit. Il allait tout à fait bien, je vous l'assure. Germaine le tenait par le bras. Attention, elle était lasse. Il l'avait rendue malade avec son histoire de Valère. Il n'allait pas recommencer avec l'histoire de la montre. Il dit « Germaine, je t'en prie, rien qu'une fois, avoue qu'il faut donner à manger à une montre. » Elle eut l'air de ne pas comprendre. Elle répondit « Écoute, il y a là-bas une mare, on entend des grenouilles chanter, c'est parce que la nuit est tiède. » Il dit « Mais possible que l'on entende chanter les grenouilles lorsque la nuit est tiède, il ne s'agit pas de cela. Tu m'appelais petit vieux du bon Dieu. Il y a Dieu, il y a l'existence de Dieu. Les uns disent oui, les autres non. Si tu rejettes la question de la montre, comment savoir ? Si Dieu existe, oui ou non ? » Elle fit très grave, « Je sais, Dieu existe. » « Alors, sois logique. Si Dieu existe, le problème de la montre importe. La montre n'est plus une montre, elle est un fait. Qu'elle mange ou ne mange pas, un autre fait. Que Dieu existe, un autre fait. Ni les premiers, ni le dernier. » Regarde le ciel, regarde la terre. Pour une montre, tu nies le ciel et la terre. Alors enfin, elle comprit. Elle regarda le ciel, elle regarda la terre. Elle eut le geste de Dieu qui va tirer du néant le ciel et la terre. Et elle dit, n'y pense pas, mais tu sais, entends-tu, tu sais qu'on ne donne pas du café à une montre, que l'on ne donne rien à manger à une montre. Quelquefois, oui, il arrive qu'on mette un rien d'huile dans une montre. De l'huile comme pour une salade quand on a invoqué le ciel et la terre. Oh, il éclata de rire. Mais il n'était pas fou. On ne jette pas le marc dans l'évier, pas le café dans la montre, pas l'huile dans une montre. On ne donne pas à manger à une montre, il savait bien. On remonte une montre. Alors pourquoi s'obstinait-on? Pourquoi le blaguer? On donne de l'huile à une montre. Il y avait là de quoi réfléchir. Mon Dieu, comme il y avait là de quoi réfléchir. Un peu plus tard, il pensa au monsieur qui parlait de Taine. Il dit, il m'en veut à cause de l'histoire de Valère. Toi aussi, tu m'en veux. Je t'ai rendu malade, mais j'ai donné mon cerveau et Valère est un mot. Autour de ce mot, j'ai groupé d'autres mots. De mots en mots, cela a fait un Valère et s'épouse en folie autour du cou d'une vieille femme. Je te jure que Valère, qui n'existait pas, n'a pas tué une vieille femme. Et que moi, qui existe, je n'ai pas tué de vieille femme. Mais si tu veux, avec des mots, de mot en mot, je tuerai Valère. Elle dit, oui, avec des mots, tu peux tuer Valère. Tu écriras un conte. Mais auparavant, tu te reposeras. Tu verras un docteur. En attendant, sois calme. Pense à moi avec sérénité. Avec sérénité. Ah !